Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du Studio Kalangou. Bakim Batoura Al-Mustapha à la présentation. Dans le forum de ce soir, nous allons parler de la prévention des incendies dans les établissements scolaires au Niger. Depuis le mois d'avril, une série d'incendies ont touché plusieurs écoles primaires du Niger, particulièrement à Niamey. Ces incendies ont engendré énormément de dégâts aux différents acteurs de l'éducation, notamment des pertes en vies humaines et aussi en biens matériels. Parmi ces incendies, l'un des plus drastiques était celui intervenu le mardi 13 avril 2021 dans les environs de 16 heures à l'école primaire du quartier Pays-Bas, où plus de 20 élèves ont trouvé la mort, dont 19 en classe de maternelle et plus de 25 classes transformées en cendres, des classes en paillotes parties en fumée. Quelques jours après, un autre incendie s'est déclaré à l'école primaire Kouda de Niamey et d'autres classes, notamment en nombre de 9, se sont transformées en cendres en date du 20 avril 2021. En effet, ce sont plusieurs incendies qui ont ravagé les écoles pendant cette période de Ramadan au Niger et ce sont plusieurs vidéos et images sur les réseaux sociaux qui témoignent de ces drames intervenus juste quelques jours après l'investiture du président Bazoum Mahmed, du président de la République Bazoum Mahmed en date du 2 avril 2021, pendant laquelle, dans son discours, le président avait affiché son intention de vouloir réserver un traitement spécial au secteur de l'éducation. Alors, comment les différents acteurs de l'éducation ont-ils vécu ces drames ou ces incendies tragiques qui ont secoué le monde scolaire pendant cette période? Quel est le bilan estimatif des dégâts occasionnés par ces différents incendies? Quelles sont les mesures prises par les différents acteurs face à la multiplication de ces incendies ou bien, et quelles perspectives envisager pour finir définitivement avec ces phénomènes qui avaient endeuillé l'école nigérienne? Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, c'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres que nous avons invité aujourd'hui sur ce soir Monsieur Halidou Moukaila, secrétaire général du SINASEP, syndicat national du cycle d'enseignement de base. Bonjour Monsieur Moukaila.
Bonjour.
Et nous avons également ce soir avec nous sur ce plateau Monsieur Abdoulaye Ibrahim, dit Anelka, qui est le SCA du comité directeur secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur de l'USN, Union des scolaires nigériens. Bonjour Monsieur Abdoulaye Ibrahim.
Bonjour Monsieur Al-Mustapha.
Pour également la tenue de ce forum, nous avons invité l'association des parents d'élèves mais qui ont eu un empêchement de dernière minute. C'est pourquoi ils ne sont pas avec nous sur ce plateau. Et également la direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues et des langues nationales et de l'éducation civique, mais qui n'ont pas répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir chers invités et soyez les bienvenus au Studio Kalangou. Des pertes en vies humaines, des classes en paillotes réduites en fumée, des tables-bancs incinérées et bien d'autres matériels détruits, c'était entre autres les dégâts enregistrés par l'école nigérienne pendant le mois de Ramadan, période de mi-avril 2021, suite aux incendies des établissements scolaires. Avec nos invités ce soir, nous allons parler de ces événements tragiques afin de voir quels mécanismes de prévention, de lutte, devraient être adoptés. Pour ce faire, nous allons commencer par demander à nos invités de nous dire comment ils ont vécu ces événements que l'école nigérienne a traversés pendant cette période. Monsieur Halidou Moukaila, secrétaire général du SINASEP, syndicat national du cycle d'enseignement de base, dites-nous comment vous avez vécu ces moments pendant lesquels il y a eu plusieurs incendies au niveau des écoles primaires, particulièrement ici à Niamey, et quel bilan vous avez vous dressé des dégâts enregistrés?
Bien, merci en tout cas pour cette invitation pour débattre de cette question aussi pertinente, mais une question qui relève du niveau national parce qu'il faut le reconnaître, l'affaire de l'école, ce n'est pas seulement une affaire d'enseignants ou une affaire de gouvernement, c'est une question qui concerne le pays de manière générale, donc c'est une affaire véritablement nationale. C'est vraiment triste de parler aujourd'hui de la situation que nous avons vécue ces quatre dernières semaines par rapport aux incendies ayant ravagé plusieurs classes, n'est-ce pas, Payotte, non pas à Niamey seulement, mais y compris, selon les informations que nous avons reçues de nos démembrements à l'intérieur, il y a également eu des séjours d'incendies à l'intérieur du pays. lorsque le premier drame était arrivé au niveau des écoles Pays-Bas, parce qu'il faut faire cette nuance, il ne s'agit pas d'une école. Sur le site de l'école Pays-Bas, il y avait 4 écoles qui se trouvent sur le même site.
4 écoles.
4 écoles, parce qu'il y avait Pays-Bas 1, Pays-Bas 2, Pays-Bas 3, plus maintenant la maternelle, c'est-à-dire l'école gérante d'enfants. Qui se trouve, je dis bien, les 4 écoles se trouvent sur un périmètre de moins de 1000 mètres carrés. Alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout est parti de là-bas, où malheureusement, à l'heure actuelle, nous avons enregistré 21 pertes en vies humaines, puisque les premières estimations, c'était 20. Entre-temps, il y avait un des jeunes écoliers, c'est-à-dire un des enfants qui était gravement blessé et qui avait succombé par la suite à l'hôpital national. Donc, c'est ce qui nous a amené à 21. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est vraiment trop triste de parler de cette situation. Et surtout, nous, en tant qu'enseignants, nos collègues qui étaient sur le terrain, qui ont vécu, aujourd'hui, reconnaissez quand même que c'est douloureux pour nous. Nous avons deux de nos collègues qui ont perdu leur enfant dans cet incendie-là, là-bas, au niveau des Pays-Bas. Mais ce qui nous a beaucoup intrigué, c'est que lorsque c'était arrivé au niveau des Pays-Bas, nous nous sommes dit que c'est peut-être un phénomène qui est arrivé, c'est peut-être un accident où l'incendie s'est déclenché. Mais par la suite, vous avez vu la succession, n'est-ce pas, d'incendies.
L'incendie.
Et chaque jour que Dieu fait, on parle d'incendie dans une école. Chaque jour, c'est des classes en pâte qui sont en train de partir en fumée. À l'heure actuelle, je ne peux même pas vous dire véritablement combien de classes nous avons enregistrées qui sont parties parce que juste après Pays-Bas, la semaine qui suit, c'était les écoles Kwado 1, Kwado 2 et Kwado 4 qui également ont vu toutes les classes payotes en tout cas partir en fumée. Au début, je disais, même si on pouvait se dire que c'est une situation qui est arrivée, mais par la suite, nous nous sommes dit, est-ce que véritablement ce ne sont pas des actes criminels qui sont en train d'être perpétrés dans ces écoles, puisque que je dois vous dire, nous en tant qu'organisation syndicale, cela nous a amené à faire le tour de plusieurs écoles, n'est-ce pas, de la capitale. Il y a des véritables des responsabilités à dégager par rapport en tout cas à ces...
Nous allons revenir parler de toutes ces responsabilités, parler de causes des différents incendies, qu'est-ce qui est à la base et qu'est-ce qui a amené à cette répétition des différents incendies dans les différents établissements. Mais nous avons avec nous également monsieur Ibrahim Abdoulaye, qui est le SCA du comité directeur, représentant des scolaires. Dites-nous, en tant que scolaire, comment vous avez vécu, monsieur Ibrahim Abdoulaye, ces moments difficiles, cette tragédie d'incendie dans les différentes écoles primaires qui a conduit jusqu'à des pertes en vies humaines.
Et merci beaucoup, monsieur Al-Mustapha, pour cette occasion qui nous est offerte pour venir débattre sur un sujet aussi sensible que délicat. La question des incendies dans nos écoles. Et évidemment, le 13 avril, nous avons vécu cet événement dans notre peau. C'était véritablement horrible, terrifiant. C'était vraiment une situation inimaginable pour nous à un moment donné, de voir dans un incendie 21 écoliers, 21 camarades brûler à vif. Ce n'était pas joli à voir parce que dès que l'événement s'est produit, nous nous sommes précipités et avec une délégation qui a été conduite par notre secrétaire général pour se rendre sur les lieux de ces drames. Ce n'était pas joli à voir. Ces jours, je vous assure, nous avions eu tous les problèmes de ce monde pour dormir. C'est devenu en quelque sorte un cauchemar pour nous parce que nous ne pouvons pas l'imaginer, des vies humaines. Des innocents enfants brûlés comme ça, faute d'une véritable politique éducative pour notre pays. Ces drames, excusez-moi du terme, si ça s'est produit quelque part, on pouvait dire que c'est compréhensif. Mais un drame en pleine capitale, en pleine ville, c'est inacceptable. C'est vraiment désolant, c'est vraiment regrettable ce qui s'était passé. Après, comme Munkel l'a dit, après cette tragédie, nous avions à un moment donné crié que alors le temps est venu pour que des mesures fortes soient prises pour qu'il n'y ait plus ce genre d'événements. Mais malheureusement, l'incendie de l'école primaire, n'est-ce pas, du Pays-Bas, a eu un effet de contagion dans d'autres écoles,
établissements.
Dans d'autres établissements, mais au-delà aussi de la capitale, l'effet des contagions s'est fait constater et partout au Niger. C'est ce qui est vraiment dommage.
D'accord, merci M. Ibrahim Abdoulaye pour cette précision par rapport à la manière par laquelle vous avez vécu les événements drastiques, les incendies qui sont produits du moins dans les différents établissements primaires. Nous allons revenir avec vous, M. Munkaila Halidou. On parlait des causes, on parlait de ce qui était à la base de ces différents incendies. Dites-nous, selon vous aujourd'hui, selon votre constat sur le terrain, qu'est-ce qui était à la base, qu'est-ce qui était la cause de ces différents incendies?
Bien, parler de la cause de ces incendies, je pense que c'est vouloir nous avancer sur une question qui est déjà en instruction aujourd'hui. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, l'enquête ne nous a pas donné véritablement, y compris même les sapeurs-pompiers, véritablement le fondement de cet incendie-là. Mais il y a des responsabilités à dégager. Mm-hmm. Lorsque nous étions partis sur le terrain pour constater comment ça arrivait, je vous assure que vous ne pouvez pas ne pas avoir des larmes aux yeux quand vous allez vous rendre compte que c'est dans une ruelle que des deux côtés on a construit des classes. Au fait, les classes qui sont parties en fumée n'étaient même pas sur le site de l'école. C'est ce qui fait extrêmement mal. C'est dans un couloir qu'on a érigé en école où on a construit à peu près 25 classes paillotes dans ce couloir. Et je vous assure que dans ce même couloir, il y a un passage piéton, des gros camions qui passent. C'est-à-dire que même si l'incendie n'était pas arrivé, il faut vous dire que la vie de ces innocents-là était déjà en danger. Était déjà en danger parce que aucun responsable ne s'est soucié de ce qui pourrait arriver à ces jeunes-là. Donc, aujourd'hui, je pense que lorsque c'est arrivé au niveau des écoles Pays-Bas, tout de suite, vous avez vu comment les condamnations étaient sorties. Les gens ont condamné, et les gens ont demandé à ce que des mesures urgentes puissent être prises pour que plus jamais ça dans ces écoles-là. Mais très malheureusement, je vous informe que même ce samedi, il y a encore eu des écoles ou des classes qui sont parties en fumée ici au niveau de vers la ceinture verte. Donc c'est des phénomènes qui sont là. On ne peut pas vous dire tout de suite, jusqu'à ce que quand même ceux qui ont la responsabilité de nous dire comment c'est arrivé, qu'on puisse nous le dire. Mais j'ai dit là, quand vous constatez la manière dont les paillotes sont construites, ceux qui ont autorisé la construction de ces paillotes, les conditions dans lesquelles les sites de ces écoles ont été morcelés, parce que c'est aussi ça le premier facteur. Quand vous prenez Pays-Bas aujourd'hui, j'ai dit, je ne vais pas anticiper sur l'enquête en cours, mais déjà, je vous dis que c'est une école qui devrait se retrouver sur un terrain de 3 hectares, qui se retrouve être aujourd'hui cloîtré sur 750 mètres carrés pour abriter 4 écoles. Je ne sais pas si on est en train de mesurer aujourd'hui la responsabilité des gens par rapport en tout cas à cette question. Tous ceux qui sont impliqués, moi je ne peux pas vous dire que c'est X ou Y, jusqu'à ce que l'enquête puisse nous dire. Mais il y a des responsables aujourd'hui, il y a des responsabilités à dégager par rapport à ça. Rien que le fait que le site puisse être morcelé, rien que le site puisse être, ne puisse pas avoir en tout cas son étendue tel que ça devrait être, je pense que c'est déjà aussi un des cas majeurs qu'on ne devrons pas perdre de vue par rapport en tout cas à ce qui est arrivé. Maintenant, par la suite, vous avez vu la facilité avec laquelle chaque jour on appelle les pompiers pour dire il y a incendie dans telle école, il y a incendie dans telle école. Et le comble, c'est que tous ces incendies sont presque été signalés au même moment. C'est entre 15h30 et 16h, au moment où les enfants sont déjà à l'école. Et quand vous prenez par exemple au niveau de Kwadwo, on ne peut pas nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas de clôture, c'est une école qui était clôturée. Mais cela n'a pas empêché à ce que toutes les classes qui sont dans l'enceinte de cette école sont parties en fumée. Mais d'où est-ce que c'est arrivé? Il n'y a pas d'électricité pour qu'on puisse nous parler de court-circuit. Alors, comment est-ce que ces classes-là sont portées en fumée sans que personne ne puisse se rendre compte jusqu'à ce que les dégâts puissent être constatés? Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il y a véritablement, quand on veut avoir le fondement de cette affaire-là, il faut d'abord diagnostiquer qu'est-ce qui nous a amené dans le cadre de la construction de ces classes paillotes, comment les classes paillotes ont été construites, qui sont les responsables de ces classes paillotes, et pourquoi
la prolifération des classes payantes. Chaque responsable qui s'élève, il dit il faut nous construire une école dans notre village. Même si le village ne nécessite pas une école, on crée. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de classe en matériaux définitifs, on crée des classes payantes jusqu'à ce qu'au niveau des collèges et des lycées, que nos jeunes frères se retrouvent dans ces conditions d'apprentissage. Mm-hmm. Vous voulez savoir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a ces classes payantes? Je vous assure, c'est un business. Et les mairies, et les directeurs régionaux, et les inspections, et même les directeurs d'école se retrouvent. Même si aujourd'hui, on va vous dire que non, c'est les COGES qui ont la responsabilité de la construction de ces classes, mais ils se retrouvent tous dedans. Quand on me dit aujourd'hui qu'une classe payante coûte 400 000 francs à l'État du Niger, 400 000, c'est beaucoup. Dans le temps, dans les années 80, je me rappelle que s'il y avait 400 000 francs, au moment des Samaria, c'était à moins de ça que les classes ont été construites. Même si, avant-hier, le président a pris l'engagement de trouver une autre alternative par rapport, en tout cas, à ces classes payantes. Mais j'ai dit, le mal est déjà fait.
Merci, nous avons compris, M. Khalid Moukhela. Il faut situer les responsabilités de manière à l'échelle nationale, savoir qui et qui sont impliqués dans cette affaire. Et l'enquête est déjà en cours. Nous allons revenir poursuivre nos échanges par rapport à cette question. Mais bien avant, nous allons écouter Delay Ibrahim, qui est avec nous également sur ce plateau, qui est le secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur de l'ISN, Union des scolaires nigériens. Dites-nous, M. Ibrahim Abdoulaye, comment était la réaction de l'USN face à ces différents incendies? Comment aujourd'hui êtes-vous en train d'accompagner le processus pour qu'elles soient définies les différentes responsabilités, pour qu'elles soient établies, et également pour faire en sorte que les dégâts que l'on a connus ne soient plus vécus dans les différents établissements primaires?
Oui, et évidemment, M. Al-Mustapha, nous avons fermement condamné, n'est-ce pas, ce qui s'était passé, surtout les laisser-aller qu'il y a eu au niveau de cette école primaire. C'est vrai, quand vous partez sur l'endroit, le premier constat que vous allez faire, c'est de voir que les classes payotes en tant que telles qui ont pris feu, c'est-à-dire ne sont pas dans l'espace et de l'école. C'est vrai, et également Moukel l'a relevé, c'était une école qui avait un grand espace, mais très malheureusement, avec la politique que nous connaissons dans notre pays, des morcellements des espaces publics, et cette école a été réduite sur un petit espace. Et dans le cadre nous-mêmes des questions qu'on a eu à poser aux responsables de l'école, nous leur avons demandé. Et pourquoi, c'est-à-dire faire ou construire les classes payantes à côté du mur d'un établissement privé ou public qui était à côté? Il nous a expliqué qu'à un moment, l'école était même dans l'enceinte de l'établissement public ou privé, là, qui était un établissement commercial, je crois bien, qui était là-bas. À un moment, l'école était à l'intérieur. Mais les responsables ont estimé que vraiment l'école doit dégager de l'endroit. C'est pourquoi ils sont revenus derrière le mur pour faire les classes en payotte. Et vous savez, et nous avons foi, c'est vrai, aujourd'hui à notre justice. Une enquête est en train d'être diligentée pour situer les responsabilités. Mais moi, je m'en vais vous dire une chose. Franchement, et quand nous allons partir au fond, nous, en tant que syndicat, aujourd'hui, j'ai le plein droit de dire qu'on doit, c'est-à-dire nous-mêmes, s'interpeller. Pourquoi? Parce que tout simplement, les enseignants qui étaient dans l'établissement n'ont pas pris le soin aussi de dénoncer, n'est-ce pas, l'emplacement de cette école. Et nous le savons aujourd'hui pertinemment dans nos écoles, c'est-à-dire au niveau des directeurs, pas tous les directeurs, certains directeurs, c'est des nominations politiques et ils n'ont pas la bouche de parler. Alors que nous, les syndicalistes, notre rôle premier, c'est la dénonciation, c'est la critique, etc. etc. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai regretté. Regretter, c'est là au niveau des enseignants, mais aussi regretter en même temps cet état de fait à notre niveau en tant que scolaire. Parce qu'il est de coutume pour nous, si on constate une situation anormale, une situation d'injustice, de procéder à des dénonciations, de procéder à des critiques, d'informer l'opinion publique, d'alerter l'opinion publique sur les dangers qui se profilent à l'horizon. Mais nous avons manqué tout cela, et aussi la démission totale de l'État. parce que je me demande.
La démission de l'État, vous voulez dire par là?
La démission de l'État voudrait dire quoi? Que l'État, en tout cas, peine à mettre les scolaires dans les conditions optimales d'études, n'est-ce pas? La démission de l'État, parce que tout simplement, les entités en charge aujourd'hui de procéder, n'est-ce pas, à des contrôles réguliers, à des contrôles quotidiens, n'ont pas joué leur rôle. Je pointe ici du doigt, c'est-à-dire les inspecteurs, la direction régionale, etc. Parce que, franchement, dès que vous arrivez sur l'endroit et qu'on vous dit que c'est là où se situe l'école, sur une, dans une ruelle où il y a les passages de tout genre, piétons, motos, cyclistes, et véhicules, etc. Mm-hmm. La vie de nos camarades était en danger bien avant même ces drames. Mm-hmm. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, et cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller à revoir, n'est-ce pas, et c'est-à-dire et cette mauvaise pratique de construction et des classes en paillot.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en train de parler des différents incendies qui ont ravagé les écoles primaires nigériennes à un certain moment donné. Récemment d'ailleurs, pendant ce mois de Ramadan, plusieurs incendies ont été déclarés à l'échelle nationale, comme l'ont dit les invités. Nous allons parler la cause, l'une des causes de ces incendies, ou bien l'une des choses qui a fait en sorte que ça a pris de l'ampleur, c'était la présence des classes en paillotes. Vous parlez tout à l'heure, monsieur Khalid Munkela, d'une alternative qui est en train d'être trouvée. Dites-nous de quoi s'agit-il précisément et quelle est cette alternative qui est en train d'être trouvée aujourd'hui par rapport à la question de construction de classes en paillotes. S'agissant déjà que notre invité, Abdoulaye Ibrahim, parle d'un certain protocole d'accord qui a été signé à un moment entre les différents acteurs pour finir définitivement avec cette question des classes en paillotes.
Oui, peut-être avant de répondre à votre question, je dois quand même vous dire que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est du fait de la mauvaise gouvernance au niveau du secteur de l'éducation. Mauvaise gouvernance parce que n'oublions pas que nous sommes régis par des lois, nous sommes régis par des textes. Aujourd'hui, pour avoir une école, il y a le respect, comme je l'ai dit tout à l'heure, de certaines normes à respecter. On ne peut pas aujourd'hui octroyer un terrain de construction d'une école tant que la loi prévoit qu'il y ait au moins 2,5 hectares pour le site d'une école. Je dis bien 2,5 hectares. Donc, pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui les conditions dans lesquelles les écoles sont créées, c'est que c'est ceux qui autorisent même la création de ces écoles, qui est le ministère ou les directions régionales, qui sont en train de mettre en marge ou de mettre de côté
les lois
et ils font à leur tête ce qui bon leur semble. Donc c'est pour ça que je parle de mauvaise gouvernance. Maintenant, je vais peut-être revenir sur ce que Anelka a dit tout à l'heure. Nous avons alerté avant qu'il n'y ait l'incendie. Je dois vous dire que par rapport à ce site de l'école des écoles Pays-Bas, c'est une affaire qui nous a même amené devant les juridictions compétentes. Parce que nous savons que le terrain de l'école était ce site dont il est en train de parler, où il y a aujourd'hui 4 sociétés qui occupent ce terrain-là.
Quatre sociétés
privées. C'est-à-dire que le site a été morcelé et a été vendu à des privés. À des privés qui semblent être plus forts que l'État. Lorsque nous avions été saisis par notre section de la commune 4, nous avons dit qu'il faut poursuivre cette affaire avec les parents d'élèves. Et quand vous allez partir, faites le micro-trottoir dans le quartier, vous allez trouver des parents qui vont vous dire qu'ils étaient devant la justice par rapport au site de l'école.
Mais quelles sont ces sociétés aujourd'hui?
Non. En fait, vous allez les voir. Vous avez une société de construction de matelas. Moi, tu sais, il y a beaucoup de matelas. Il y a un garage, n'est-ce pas, d'une compagnie de transport de ciment. Il y a d'autres de vente de véhicules. En fait, je vous ai dit que c'est sur 3 hectares que l'école devrait être construite. Malheureusement, aujourd'hui, l'école s'est retrouvée en dehors même du site initial. Et c'est pour cela que nous avons intenté le procès contre ces gens-là. Malheureusement, ils nous ont par la suite amené des documents antidatés qu'ils ont présenté devant les tribunaux pour nous dire que non, c'est le terrain appartenait à quelqu'un bien avant que cela ne puisse être octroyé à l'école. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, puisque le terrain c'était pour des privés, il faut trouver un autre site. Mais puisque les enfants doivent aller à l'école, et c'est comme ça que le site actuel de Pays-Bas a été trouvé, a été donné par le chef de quartier, et ça a été fait. Mais c'était juste
un terrain provisoire, le temps de trouver un autre site pour l'école. Malheureusement, vous avez vu dans quelles conditions cela nous a amené. Donc, pour dire que nous n'avions pas été restés indifférents par rapport à cette situation-là. L'autre question sur laquelle je vais répondre, la question posée tout à l'heure, on fait des propositions. Et dans les propositions, aujourd'hui, nous avons dit il faut mettre fin à ces classes payantes. Et nous l'avons toujours décrié. Il peut avoir un autre mécanisme de pouvoir avoir des classes qui peuvent durer, qui peuvent rester pendant plusieurs années, le temps d'avoir des classes en matériaux définitifs. Donc, chaque année, il faut reprendre les classes. Chaque année, il faut reprendre les classes. Est-ce que vous voyez de la situation dans laquelle nous sommes?
C'est une sorte de commerce qui peut se faire même
autour. Je vous ai dit que c'est même un business qui se fait de la construction de ces classes-là. Lorsque nous dénoncions les classes payantes, lorsque nous dénoncions le manque d'infrastructures, vous vous rappelez? Ici, je me rappelle encore que l'ancien président, en son temps, le président Issoufou, était sorti dans un de ses messages pour dire qu'ils ont mis fin aux classes payantes dans la communauté urbaine de Niamey. Ils ont fini avec les classes payantes même à l'échelle nationale et qu'ils vont se donner les moyens pour qu'ils ne puissent plus avoir de classes payantes. Malheureusement, nous sommes sur le terrain. Nous vivons avec et nos camarades vivent dans ces classes. Vous pouvez aller sur le terrain, vous allez constater que dans ces classes payantes, le véritable problème que nous avons, c'est même où s'asseoir qui cause problème aujourd'hui pour les élèves. Donc, pour vous dire qu'à l'heure actuelle, nous avons plus de 40% des classes qui sont en payantes à l'échelle nationale.
Donc, parlons de la maintenant, proposition que
maintenant,
vous avez...
Maintenant, la proposition, c'est de trouver un mécanisme pour mettre à l'écart la construction de ces classes payantes. Nous avons des techniciens qui sont là, nous avons des architectes qui sont là, qui peuvent nous proposer, qui peuvent nous concevoir un autre modèle, n'est-ce pas, de classe, même si ce n'est pas matériau définitif. Mais en le cas, c'est le comité directeur. Je ne vais rien vous rappeler, vous connaissez les bâtiments de Sanki. Ce n'est pas un matériau définitif. C'était juste pour 5 ans que ça a été construit, le temps des bâtiments, n'est-ce pas, le temps d'avoir d'autres dortoirs pour les étudiants. Mais pourtant, aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que ce bâtiment-là existe. Ça tient. Avec quoi on a construit ça? Ce n'est pas du ciment. C'est avec une autre matière qui ne coûte pas cher. Mais pourquoi ne pas le faire? On peut bel et bien trouver d'autres alternatives, je dis bien, pour mettre fin à la construction de ces classes.
D'accord.
Et lorsqu'on le fait, ça devient pérenne. Mais ceux qui ont en charge la gestion de l'école ne le veulent pas. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a plus rien à gagner par la suite.
D'accord, nous allons revenir
donc, voyez-vous que c'est des propositions. Et je crois que le président de la République l'a bel et bien compris. Il a dit qu'il a instruit, n'est-ce pas, en tout cas, il a donné mandat à certains responsables de lui concevoir, n'est-ce pas, une autre dynamique de construction des classes, autre que les classes, classes payantes. Donc, pour nous, on s'est dit, au lieu que ça soit, comme il l'a dit dans sa déclaration lors de son investiture, de construire des internats pour les filles à la rentrée prochaine, mais je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est de trouver l'alternative aujourd'hui par rapport à ces classes payantes.
Nous avons compris, M. Halid Moukela. Nous allons revenir par la suite pour parler des comités qui seront mis en place prochainement pour mettre fin définitivement aux incendies ou bien pour réduire quand ce phénomène d'incendie dans les différentes écoles primaires. Nous allons écouter Ibrahim Abdoulaye qui est avec nous, qui est le secrétaire chargé aux affaires académiques au niveau du comité directeur de l'ISN. On parle de la volonté du président de la République de mettre fin aux classes en payotte. Des alternatives ont été, des propositions du moins ont été faites par les syndicats des enseignants. Vous avez parlé vous-même d'un protocole d'accord qui a été signé depuis un moment. Le président de la République sortant ou bien sorti avait également parler de la mise de définitivement mettre fin aux classes en période, mais jusqu'à présent ça poursuit. Est-ce que les scolaires ont aujourd'hui l'espoir, est-ce que vous avez l'espoir de voir un jour ces classes? Que pensez-vous de tout ce qui est en train de se passer?
Et à un moment donné, pour vous dire terre à terre, les sentiments ou les impressions que nous avions eues étaient positives lorsque nous nous sommes convenus avec les autorités régionales, n'est-ce pas, ici à Niamey, parce que je me rappelle à cette époque, j'étais dans une section de l'ISN ici à Niamey. Nous avons arrêté, n'est-ce pas, de faire en sorte, comme alternative, n'est-ce pas, et de laisser ou de ne plus, c'est-à-dire aller dans le sens de vouloir donner des contrats à des particuliers, à des entrepreneurs pour la construction ou pour des construire classes. Les classes en payotte. Mais maintenant, c'est de faire un système de rotation, c'est-à-dire essayer d'ajuster les choses pour que certains élèves viennent faire cours le matin et d'autres viennent faire cours le soir. Bien que les étudiants n'ont pas, excusez-moi de l'expression, les enseignants, certains enseignants plutôt, n'ont pas, c'est-à-dire aimé, n'est-ce pas, cette proposition. Mais quand même, c'était une solution, c'est-à-dire
à l'existence des
classes. N'est-ce pas, pour pouvoir laisser cette question des classes en paillotte. Donc, aujourd'hui, Al-Mustapha, il y a, c'est-à-dire, un nouveau régime qui s'est installé. Véritablement, le discours a changé. C'est que nous nous disions, en tant que syndicalistes, n'est-ce pas, les propos que nous tenions de dire l'école nigérienne est malade, de dire que voilà, il faut vraiment, véritablement diagnostiquer cette école. C'est les nouvelles autorités de notre pays qui tiennent ces propos. Je parle d'abord des ministres de l'éducation qui ne cessent de les répéter, qui ne cessent de les dire à chacune de leurs sorties qu'il faut vraiment repenser l'école nigérienne. Ces propos sont relayés aujourd'hui au plus haut sommet, c'est-à-dire par le président de la République lui-même. Donc, il y a, c'est-à-dire, ces vents d'espoir, il y a ce souffle, n'est-ce pas, de vent de l'espoir, et nous osons espérer que cela puisse vraiment se matérialiser. Il faudrait que d'ici, vraiment, la rentrée prochaine, qu'on puisse trouver rapidement avec, c'est-à-dire les architectes. Nous sommes d'accord avec cette proposition, avec les architectes que nous avons, n'est-ce pas, de créer les conditions ou de réfléchir sur comment maintenant trouver d'autres classes. Le Niger a fait cette expérimentation très rapidement.
Nous allons revenir en termes de perspective pour faire toutes ces propositions. À présent, peut-être nous allons parler, puisque nous avons compris que vous avez vraiment de l'espoir, et c'est bien de garder espoir, de voir un renouveau de l'école nigérienne. Nous allons parler, puisque nous sommes presque à la fin de notre émission, de comités qui seront mis en place. Alors, mesdames, messieurs, parlons à présent de la mise en place des comités de veille communautaire. En effet, à travers une note de la Direction régionale des enseignements, de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique en date du 3 mai, il a été demandé aux différents inspecteurs communautaires de procéder à la mise en place des comités de veille communautaire au niveau des différentes écoles, au niveau des différents quartiers. Et cela doit se faire en collaboration avec les différents acteurs de l'éducation. Nous allons demander à nos invités de nous dire que pensent-ils de cette initiative qui vient après des incendies constatés et qui a pour objectif de mettre en place un comité qui sera là pour veiller ou bien pour surveiller, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de tragédie. Monsieur Monkela Halidou, dites-nous comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Oui, il faut dire que cette nouvelle est arrivée au moment où déjà, je disais en introduction que nous avons fait le tour de plusieurs écoles, des écoles qui ont beaucoup de classes paillotes. Et c'est lorsque nous avons commencé à douter véritablement de ces incendies, si ce ne sont pas des incendies, des actes criminels qui sont en train d'être posés, au sortir d'une de nos visites, nous avons fait cette recommandation devant les médias de demander aux directeurs d'école, parce que nous avons échangé avec beaucoup de directeurs d'école, de mettre en place des comités de veille pour voir est-ce qu'on peut surprendre ceux-là qui sont en train de mettre le feu dans ces écoles. Parce que pour nous, aujourd'hui, l'idée d'écarter les actes criminels est loin. Parce que nous ne pouvons pas ne pas croire que ce sont des actes criminels. Voilà pourquoi nous avons souhaité ça. Nous, en tant que syndicat, je l'ai dit haut et fort, le SINACEP avait demandé, n'est-ce pas, au directeur de mettre en tout cas ces comités de veille-là. Mais nous nous sommes retrouvés par la suite lorsque la direction régionale de Niamey avait pris en tout cas cet arrêté pour demander à toutes les écoles de mettre en place les comités de veille. Mais c'est que le problème, ce ne sont pas les écoles qui peuvent les mettre. Il revient aux populations, aux riverains, de créer ces comités de veille, parce que les enseignants, ils viennent pendant les heures de cours, après ils retournent à la maison, mais s'ils ne sont pas là, qui s'occupe de ces écoles? Il y a beaucoup d'écoles, je dois vous le dire, qui n'ont pas de gardien. Si l'école n'a pas de gardien, à qui on laisse ces classes paillotes? Donc ça ne peut être que les riverains. Donc la mise en place de ce comité ne peut pas être seulement l'apanage des seuls acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les directeurs d'école ou les enseignants ou les scolaires. Mais c'est une question qui doit être combinée avec les populations riveraines pour qu'on puisse mettre en place ces comités-là et de voir que dans quelles conditions on peut
peut, n'est-ce pas, minimiser les incendies dans ces différentes écoles. Donc, nous ne voyons pas d'inconvénients, mais je me dis que nous devrons aller au-delà de ces comités de veille pour que cela puisse être fait. L'idéal voudrait quand même que nous sommes presque à la fin de l'année scolaire 2020-2021, mais créons les conditions pour que, avant la reprise, que nous ne puissions plus connaître ces classes payantes dans les écoles, particulièrement au niveau de la capitale.
Et d'accord,
Al-Mustapha, je suis sûr que nous pouvons trouver une issue si les responsables en chef de l'éducation acceptent de s'asseoir et qu'on fasse le débat de comment trouver un mécanisme de sauvetage de l'école publique nigérienne par rapport aux infrastructures. Je vous assure qu'on va faire des propositions et ça peut faire tel. Un exemple, je vais vous dire, puisque
peut-être revenir par rapport à cette question de ce qu'il faudra faire.
Vous avez parlé du temps tout à l'heure.
Oui, le temps, il est presque fini, mais nous allons revenir, vous donner l'occasion.
Juste une phrase, je vous assure que juste pour vous dire que les échangeurs qui ont été construits, les hôtels qui ont été construits, les ponts qui ont été construits, c'est en PPP que le gouvernement leur a donné ça. Mais pourquoi ce même gouvernement, au lieu de penser à ces trucs-là, n'a pas créé les conditions pour donner la construction de ces classes en PPP? Je suis convaincu qu'on va trouver des partenaires qui vont prendre et qui peuvent construire. Aujourd'hui, si on a 1000 classes de Niamey, je crois qu'on va réduire à plus de 95% les classes payantes. Mais on peut les faire en 3 ou 4 mois. D'ici la rentrée prochaine, on peut avoir, mais on peut en intégrer quand même les classes payantes dans la communauté.
D'accord, merci monsieur Halid Moukela. Nous allons revenir vous demander de dire en termes de perspective une petite phrase pour vous permettre de conclure. Monsieur Ibrahim Abdoulaye, dites-nous comment avez-vous accueilli cette question des comités de veille communautaire et qu'est-ce que vous proposez finalement, parce que nous sommes presque à la fin de notre temps d'émission, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il n'y ait plus ce genre de tragédie dans les différentes écoles et que comptez-vous faire en tant qu'acteur, en tant que scolaire pour contribuer à la mise en place, à la surveillance de ces genres de phénomènes, pour qu'il n'y ait plus d'incendies dans les différentes écoles primaires nigériennes.
Et l'école, il faut le dire, c'est d'abord les enseignants, c'est les enseignés, c'est les parents,
donc,
c'est
le partenaire. Pour paraphraser le président, c'est l'affaire de tout le monde.
Oui, voilà. Donc l'école, c'est l'affaire de tout le monde. Au vu, n'est-ce pas, de ces cycles infernal des incendies, je pense que l'urgence voudrait assurer que pour finir l'année en beauté et pour arrêter, couper court, n'est-ce pas, et à cette tragédie, à cet effet de contagion, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Nous soutenons cette idée de mettre en place les comités d'éveil. Déjà au niveau de l'ISN, cette structuration, n'est-ce pas, et existentielle. Donc nous allons en tout cas créer toutes les conditions pour qu'il y ait des représentants, n'est-ce pas, et des scolaires dans ces comités, et pour essayer, n'est-ce pas, et de voir si réellement c'est de façon intentionnelle que des individus sortis de nulle part sont en train de mettre, n'est-ce pas, et le feu dans nos écoles, dans nos établissements. Je crois qu'aujourd'hui, cette thèse, elle est la bienvenue. Nous allons la soutenir, nous allons créer toutes les conditions, n'est-ce pas, et pour se sacrifier, n'est-ce pas, et pour l'école. Ça y va de soi. Aucun développement n'est possible si, en tout cas, il n'y a pas, et on ne priorise pas l'école. Alors, conscient de cet état des faits, moi, je pense que l'ISN, elle est prête à accompagner les autorités, n'est-ce pas, pour mettre en place ce comité d'éveil, n'est-ce pas. Donc, c'est possible, hein, c'est possible. Ce qu'il faudrait juste ici regretter, c'est qu'au lieu même de ce comité, si dans chaque école, il y a des gardiens, bien que nous avions l'expérience, nous a démontré que même dans les écoles dans lesquelles il y a des gardiens, en tout cas, souvent, il y a des incendies, mais l'idéal voudrait assez qu'il y ait des gardiens, n'est-ce pas, qui sont pris en charge par les municipalités, n'est-ce pas, et pour qu'ils surveillent et véritablement nos écoles.
Et quel est votre cri de cœur finalement, notre à l'endroit de tous les acteurs, à l'endroit de vos camarades scolaires également?
Notre cri de cœur à l'endroit de tous les acteurs de l'école, c'est vraiment de se mettre ensemble. Aujourd'hui, notre école souffre, notre école est malade. Notre école, vous l'avez vu, avec ces phénomènes, avec ces fléaux d'incendie, est en train davantage de perdre, n'est-ce pas, et sa crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est même un danger, n'est-ce pas, et pour la population d'envoyer leurs écoles et leurs enfants dans les écoles et publiques. Parce qu'on sait bien que si l'enfant part dans l'école, la mort l'attend de façon gratuite. Parce que tout simplement, il y a un problème, il y a un manque criard des infrastructures.
D'accord,
donc, que les acteurs s'y mettent, n'est-ce pas, qu'il y ait, et qu'on puisse repenser de façon profonde l'école et que et le président de la République, avec sa nouvelle vision, sa nouvelle politique, nous allons en tout cas l'accompagner et dans ce sens pour faire sortir l'école nigérienne des sentiers battus.
Nous avons compris, M. Ibrahima Abdoulaye Anelka, dit Anelka, le SCA du comité directeur. Nous allons revenir avant de mettre terme à notre émission. M. Halid Moukaila, dites-nous, vous êtes l'un des acteurs principaux, surtout de l'éducation au niveau de des écoles primaires. Dites-nous, quelle perspective, à titre d'appel, quel est votre dernier mot, en quelques minutes, pour que nous puissions définitivement mettre fin.
L'appel que j'ai, puisque nous sommes en train de parler de ces classes payantes, l'appel que j'ai, c'est véritablement de créer les conditions pour mettre fin à la construction de ces classes payantes. Nous avons tous, en tout cas pour la plupart de notre génération, nous avons étudié sans connaître des classes payantes. Si les anciens gouvernements ont créé les conditions pour nous mettre dans les conditions, en tout cas d'études, il n'y a pas de raison à ce qu'aujourd'hui, où le Niger regorge plus de ressources que les années antérieures, qu'on ne puisse pas aussi aujourd'hui
permettre
aux enfants d'étudier dans de très bonnes conditions. Et c'est pour cela que j'en appelle encore au président de la République de créer les conditions pour que les engagements auxquels il avait souscrit et que les promesses qu'il a eu à tenir devant le peuple nigérien et devant les partenaires, que ces promesses-là puissent être tenues, que nous créions une synergie d'ensemble. Tout à l'heure, Anelka l'a dit, c'est une affaire de tout le monde. Nous devrons tous contribuer à ce que l'école publique nigérienne qui agonise aujourd'hui puisse être sauvée. Nous avons intérêt à sauver notre système éducatif pour permettre en tout cas à ce que les nouvelles générations puissent avoir des lendemains meilleurs. Donc c'est dans ce sens que tout à l'heure je faisais la proposition de dire mais pourquoi ne pas créer les conditions, n'est-ce pas, puisque nous avons des ressources. Je ne vois pas ce qui peut nous empêcher véritablement de mettre fin à ce cycle de classe payante, si ce n'est la volonté, n'est-ce pas, de continuer à piller les ressources de l'État. Si l'État a créé les conditions d'enrichir des personnes, il n'y a pas de raison à ce que l'école qui est, il faut vous dire une chose, que tout développement d'un pays passe nécessairement par l'éducation de ses enfants. Et bien, si on doit aujourd'hui créer les conditions pour enrichir les gens, ça ne peut être que l'école. Il faut enrichir l'école. L'école a besoin d'être enrichie en quoi? Il faut juste mettre les matériels. Il faut juste mettre les infrastructures. Il faut mettre les enseignants dans les conditions de travail. Si c'est fait, je pense quand même que nous allons relever le défi qui nous attend par rapport à la qualité de l'éducation. Mais lorsqu'on se retrouve élève dans une classe payante, élève assis à même le sol, élève qui n'a pas de matériel, fourniture, rien. L'enseignant n'a pas de matériel pour travailler. L'enseignant n'est pas dans les conditions de pouvoir travailler. Mais quelle école, quelle éducation nous avons? Donc pour moi aujourd'hui, c'est véritablement cette disposition. Moi, je pense que le président a donné quand même une bonne foi, n'est-ce pas, de régler les problèmes de l'école. Mais encore qu'il ne faut pas que ça soit juste des discours politiques. Il faut aller à la concrétisation de ce qui a été annoncé, en tout cas par rapport à la question de l'école.
Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de ce soir, Forum du Studio Kalangou, qui nous a permis d'échanger sur la question de la prévention et de la lutte contre les incendies des établissements scolaires, qui a fait beaucoup de ravages ces derniers temps dans les établissements primaires ici au Niger, à l'échelle nationale, c'est là. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions d'une synergie d'action de tous les acteurs, de tous les principaux acteurs de l'école nigérienne, parce que selon les invités, la question de l'école nigérienne n'est pas seulement l'école nigérienne, la question de l'école n'est pas une question d'acteurs, c'est la question de toute la nation, de toute la population. Il faudrait créer les conditions de faire en sorte de mettre fin à la construction des classes en payotte selon les interventions des invités, parce que c'est l'une des causes qui conduit aux dégâts énormes dans les différents incendies qui se déclenchent. Il faudrait également que les différents engagements que prennent les acteurs politiques selon les invités, il faudrait que ces différents engagements soient accomplis, que les politiciens créent les conditions de pouvoir tenir à leurs paroles, qu'ils joignent les actes aux paroles qu'ils donnent. C'est ce qui peut permettre de mettre fin à certains dégâts que l'on constate au niveau des différentes écoles. Il faudrait également, selon les intervenants, enrichir l'école, c'est-à-dire en mettant les enseignants dans les conditions, en créant les conditions de rassembler les biens matériels qui peuvent permettre à l'école de bien fonctionner. En espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et nos 6 télévisions partenaires, dont 5 à Niamey et 1 à Zinder. Nous étions dans ce forum en compagnie de M. Khalid Moukaila, qui est le secrétaire général du SINACEP, syndicat national du cycle d'enseignement de base. Nous étions également accompagnés de Abdoulaye Ibrahim, dit Anelka, qui est le SCA du comité directeur secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur de l'ISN Union des scolaires nigériens. Nous avons invité pour ce forum l'association des parents d'élèves qui a eu un contretemps de dernière minute et également la direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, mais qui n'a pas donné réponse favorable pour la tenue de ce forum, qui ne sont pas en tout cas venus pour que nous puissions faire le forum avec eux. Présentation de l'émission Bakimba Toure Al-Mustapha, régie technique Madame Amina Hassan, réalisation vidéo Monsieur Mustapha Ayouba. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un autre forum sur des thématiques d'actualité.